Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Beautiful friend, this is the end.
Bonjour, les jeunes Allemands nés à l'aube des années 2000 n'ont connu qu'une seule dirigeante au pouvoir, Angela Merkel, 16 années à la tête de l'Allemagne. Elle s'apprête à passer la main et elle laisse derrière elle cette génération Merkel, comme on l'appelle. Dimanche, ces jeunes Allemands iront voter et ils tirent dès maintenant un bilan de la politique de la chancelière. C'est un reportage à Berlin de Déborah Berlioz.
Les nuages sont menaçants ce dimanche matin à Berlin. Malgré tout, une fête de quartier bat son plein dans le centre de la capitale. Pendant que les familles se pressent entre les animations pour enfants et le stand de grillades, différentes associations sportives tentent d'attirer de nouvelles recrues. Nils est venu présenter son club de basket. Âgé de 21 ans, il n'avait que 5 ans quand Angela Merkel est arrivée au pouvoir.
Pour moi, elle a toujours été celle qui était à la tête du gouvernement, qui arrivait à tout gérer sans gros incident.
Pour lui, comme pour tous ceux de sa génération, pouvoir politique rime donc avec Angela Merkel. Et de nombreux jeunes Allemands ont une certaine affection pour la chancelière. Selon Carla, 17 ans, Angela Merkel ne manque pas de qualité.
J'apprécie son ouverture et le fait qu'elle ne soit pas autoritaire. Je pense que c'est une très bonne politicienne et j'aurais aimé qu'elle reste encore plus longtemps au pouvoir.
Nils aussi est attaché à la chancelière. Il aurait sans doute voté pour elle aux dernières élections en 2017 s'il avait été majeur. Pourtant, il estime qu'elle aurait pu faire davantage pour sa génération.
Il n'y a pas eu assez d'innovation, d'avancée sur le numérique afin de permettre aux gens d'avoir partout une bonne connexion Internet ou une bonne réception sur son mobile. Et c'est justement ce dont la jeunesse a besoin. Si vous voyagez en Europe, que ce soit en Grèce ou en Bulgarie, vous allez recevoir de la 4G partout. Mais en Allemagne, en plein centre de Berlin, parfois vous captez mal et vous devez rappeler plus tard.
Le retard de l'Allemagne est évident quand on regarde les chiffres sur la fibre optique. Selon l'OCDE, seulement 5,4% des connexions Internet fixes en Allemagne se font via fibre optique. Cette part monte à 33,7% en France et 30,6% en moyenne au sein de l'OCDE. Mais il est temps de quitter la fête familiale pour un décor un peu différent. Dans un parc du centre de Berlin, un groupe de jeunes manifeste contre la politique climatique du gouvernement. Sophia, 23 ans, prononce un discours dans un mégaphone.
Parce que vous ne faites rien, des gens vont mourir. Parce que vous ne faites rien, des écosystèmes entiers vont s'écrouler. Parce que vous ne faites rien, les générations futures vont devoir vivre avec les conséquences dramatiques du changement climatique.
Sophia fait partie du Conseil des jeunes de la Fondation des générations. Son groupe milite pour une politique plus durable qui prenne en compte les intérêts des générations futures. La jeune femme est la doyenne du groupe aujourd'hui. Les autres ont entre 18 et 21 ans. Ils font tous partie de ce qu'on appelle la génération Z, née après 2000. Contrairement à la génération précédente, ces jeunes Allemands ont grandi dans une Allemagne prospère et n'ont pas connu de crise majeure avant la pandémie. Comme ils ne se font pas de soucis pour leur avenir économique, ils auraient davantage la tête à s'occuper d'autres sujets comme l'environnement. C'est en partie ce qui expliquerait l'engouement de cette génération pour les mouvements écologistes. Depuis 2019, des milliers de jeunes Allemands ont en effet suivi les traces de Greta Thunberg et ont rejoint les rangs du mouvement Fridays for Future. Lors de la grève mondiale pour le climat, le 20 septembre 2019, 270 000 personnes ont défilé dans les rues de Berlin. Comme eux, Sophia est en colère contre Angela Merkel.
Quand elle était ministre de l'Environnement en 1997, elle a dit « Le climat ne peut plus attendre, nous devons agir maintenant ». 8 ans plus tard, elle est devenue chancelière, là où elle a eu des chances d'agir. Il y a eu les accords de Paris sur le climat, la conférence de Copenhague. Donc si quelqu'un pouvait changer les choses, c'était bien elle.
Lena, 19 ans, est une compagne de lutte de Sophia. Elle ne reproche pas seulement à Merkel de ne pas avoir fait assez, Selon elle, la chancelière a également agi activement contre les intérêts de la planète.
Au niveau européen, elle s'est par exemple engagée contre des normes plus restrictives pour les émissions de CO2 des voitures. Et cela, on peut le comprendre quand on regarde avec quel lobby les conservateurs sont en contact. Merkel a donc privilégié les intérêts du capital face à la protection de la planète et donc la protection des humains.
Au final, la politique d'Angela Merkel a largement entamé la confiance de Sofia et de Lena dans le système politique. En cela, elles sont assez représentatives de leur génération. Selon une étude de 2019, 77% des 18-25 ans sont satisfaits de la démocratie en Allemagne. Et pourtant, 71% sont convaincus que les politiques ne se soucient pas de ce qu'ils pensent. Résultat, les jeunes délaissent les partis politiques pour se concentrer sur l'activisme et la désobéissance civile. Et ça aussi, c'est un héritage de Merkel. Download. Loading computer in,
hacking into the mainframe. On ne le voit pas et pourtant, il est partout. Le numérique, un véritable enjeu géopolitique et écologique pour demain. Pour en parler, nous recevons dans le studio d'Accent d'Europe Guillaume Pitron, auteur de L'Enfer numérique, Voyage au bout d'un like. C'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour Guillaume Pitron.
Bonjour Juliette Rangeval.
Derrière les clouds, les échanges virtuels et la dématérialisation des fiches de paix, il y a des infrastructures en verre et en béton, des centres de données, des câbles, des réseaux, des téléphones portables. Dans votre livre, 2 ans d'enquête où vous racontez comment cet univers invisible devient visible à vos yeux en vous rendant d'Amsterdam aux confins de la Chine, en passant par Tallinn, la capitale estonienne. C'est le pays le plus numérisé au monde. L'Estonie, c'est un progrès incroyable, non ?
Je pense que c'est un progrès parce qu'il ne faut pas oublier que l'Estonie se présente et est de fait la nation la plus digitalisée de la planète, c'est-à-dire que tous les échanges entre le citoyen, l'administré et l'État sont, à part quelques-uns d'entre eux, mais tous sinon sont dématérialisés, stockés dans une plateforme. Et c'est un progrès parce que c'est transparent. L'Estonie a fait partie des États du bloc soviétique et au lendemain de la chute de l'URSS souhaitait que justement l'État soit transparent. Et le digital, le numérique, permettait cette transparence-là. C'est aussi un État qui communique très bien sur cette virtualisation qui lui permet de créer des statuts de résidents. Il se markete très bien, il se vend très bien, il vend très bien une image d'État à la pointe de ses technologies, ça lui apporte de la croissance économique. C'est bien de payer la dette des États en période post-covidienne. Donc je pense qu'il y a un vrai progrès derrière cela et il est constaté et vécu comme tel par les Estoniens. Simplement, il y a un moment où il faut aussi leur dire, mais c'est très bien d'économiser du papier, alors ils vous donnent des chiffres mirifiques sur les économies de papier que ça permet, mais quelles sont les infrastructures qui viennent remplacer cela et qui, le papier, et qui rendent votre vie dématérialisée possible? Et alors là, ce que j'ai constaté, c'est que personne ne savait. Or, en fait, c'est le sujet clé que de savoir comment est-ce qu'on stocke la donnée, où est-ce qu'on la sécurise, est-ce qu'on redonde les centres de stockage de données pour être sûr qu'elle soit toujours disponible, quels sont les impacts géopolitiques de ce stockage de données également, alors que la Russie pourrait peut-être avoir envie éventuellement de mettre la main dessus. Et en fait, j'ai constaté que tout ce qui tournait autour de la matérialité de ce monde censément immatériel ne se posait pas en Estonie, pas davantage qu'il ne se pose d'ailleurs nulle part ailleurs dans le monde.
Oui, parce que quand vous posez la question de ce que représente véritablement un téléphone portable, par exemple, on n'en a aucune idée. La plupart des adolescents qui sont si soucieux de l'avenir de la planète sont toute la journée sur leur écran.
Et consomment, alors les chiffres m'ont sidéré, un jeune de 18 ans en France a déjà eu entre les mains 5 téléphones portables, il en est à son 6e. Or, le téléphone portable, les interfaces, comme on dit, téléphone, tablette, ordinateur, comptent pour la moitié de la pollution numérique. Par ailleurs, les jeunes sont ceux qui, parmi nous, sont le plus souvent sur les réseaux sociaux. Le Covid a peut-être aussi accéléré cette tendance-là pour garder le lien social, avec des impacts sur la planète qu'on commence à pressentir, sur lesquels on commence à mettre des chiffres. Y a-t-il pas un paradoxe à cette génération Greta qui, d'un côté, souhaite et sincèrement, et c'est bien, lutter contre le plastique, interroger nos modes de consommation lorsque l'on prend l'avion à tout bout de champ, et qui, d'un autre côté, ouvre un nouveau chapitre d'une nouvelle pollution humaine qu'elle va contribuer à aggraver.
Et par ailleurs, s'il y a d'immenses progrès pour la médecine, avec l'homme augmenté, les prothèses par exemple, les pacemakers, ce sont aussi des déchets un jour qu'il va bien falloir gérer.
Mais en fait, ce que je le pense vraiment, c'est que à mesure que nous allons avoir des lentilles connectées, des implants sous la peau qui vont nous connecter à Internet, etc., nous, hommes, serons de plus en plus des objets électroniques, et donc nous serons des déchets électroniques. Et pour les déchets électroniques, nous serons à la mort. Il faudra des filières de recyclage compétitives, une économie circulaire qui soit fonctionnelle. Nous rentrons dans un monde de l'Internet de tout. Et on appelle aussi ça quelquefois l'Internet des corps. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les corps vont fournir de l'information. Et pour ça, il faudra qu'ils soient bardés de capteurs. Et l'Internet de tout, c'est la connexion de tous les corps, animaux, humains, mais aussi de la matière végétale, à une infrastructure que certains technoprophètes appellent déjà le holos, qui est une espèce de matrice qui pourra en fait amasser toutes ces données, les traiter via, avec des super ordinateurs, des super calculateurs, et transformer tout ça en information, et transformer tout ça en pouvoir.
Pourquoi est-ce qu'on a besoin? Alors c'est assez dystopique comme vision, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de données? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'accumuler toutes ces data qui consomment beaucoup d'énergie sur la planète?
Moi-même et vous-même, nous sommes une accumulation de données. Lorsque je me déplace jusqu'à RFI, j'ai produit de la donnée. Donc c'est une information sur moi. Et si on multiplie ces données par mes actions quotidiennes sur des années entières, alors se dessine une géographie de qui je suis. Et cette donnée, elle vaut de l'argent. Elle vaut de l'argent pour de la publicité ciblée, elle vaut de l'argent pour mieux connaître mes modes de consommation, me géolocaliser, proposer un marketing géolocalisé, adapté à mes besoins selon l'endroit où je me trouve. Et donc l'industrie aujourd'hui comprend la valeur de cette information, qu'elle va pouvoir transformer en service commercial, donc en argent, en espèce sonnante et trébuchante, et donc en pouvoir. Donc nous avons besoin de cette donnée qui est un petit peu le carburant de cette nouvelle économie qu'on appelle l'économie des données. Et puis j'ajouterais juste que tout cela peut être demain, pour fabriquer ce que pensent certains technoprophètes, je sais que c'est dystopique, une intelligence artificielle forte. Et donc en fait, je pense qu'inconsciemment, nous participons avec toutes ces données qui vont être de plus en plus stockées et traitées à vouloir créer un dieu. Je ne dis pas que ce dieu existera, mais je dis que c'est déjà pensé comme tel par les maîtres de l'industrie numérique.
On va parler des solutions pour essayer de contenir un petit peu ces visions qui sont assez effrayantes, assez prophétiques. Qu'est-ce que peut faire un citoyen? Il y a des petits gestes. Alors, on dit souvent, il faut éteindre son portable. Est-ce qu'il faut renoncer à tout progrès? Est-ce qu'il faut retourner à la lampe à huile, comme les Amish? Quelles sont les pistes?
Alors, Amish, non. Lampe à huile, non. Bougie, non. Lampe à pétrole, non. Évidemment, je vis avec mon temps moi-même. J'ai un iPhone 7. Pas 12, mais 7 quand même. J'ai besoin des réseaux sociaux pour communiquer. Et donc, effectivement, il y a un risque d'être caricaturé, entre guillemets, en étant anti-progrès. Évidemment, ce n'est pas mon cas. En revanche, effectivement, comment est-ce qu'on continue de profiter de tous les bienfaits de cette technologie tout en mitigeant ses impacts écologiques? Le premier enjeu, c'est celui de l'interface et du téléphone portable. Si c'est la moitié de ma pollution, alors si je garde ce téléphone deux fois plus longtemps, ben je vais évidemment, à gros traits, diviser par deux ce poste de pollution. Donc c'est colossal. Donc je pense qu'il faut bien avoir conscience que rallonger la durée de vie des équipements au quotidien numérique, mais ça vaut aussi pour mon micro-ondes et pour ma machine à laver, hein. Ça, c'est des sujets extrêmement concrets avec un impact fort. Après, en même temps, je m'inquiète un petit peu de cette idée de dire on va nettoyer nos emails, on va alléger notre boîte mail, la vider régulièrement, parce que aujourd'hui, ce sont les machines, ce sont les algorithmes qui vont produire des données pour le compte d'autres algorithmes, données qui vont être, par la grâce des supercalculateurs, transformées en produits qui seront utilisés par les entreprises pour le compte d'autres entreprises. La part de l'humain dans le fonctionnement d'Internet est appelée à régresser au profit des machines. Donc vous et moi dormirons peut-être 12 heures par nuit demain, libérés de certain nombre de contraintes que nous serons, et pendant ce temps-là, les machines continueront à tourner. Donc, face à cette réalité-là, qui de toute façon est inévitable, qui arrive dans les prochaines décennies, vider moi boîte mail, c'est un peu comme si je vidais l'océan à la petite cuillère, quoi. Donc, il y a des questions qui sont de l'ordre de ma capacité, de mes gestes quotidiens, et en même temps, parler de pollution numérique, parler de mitiger l'impact d'Internet du numérique sur l'environnement, c'est se poser et c'est tenter de répondre à des questions qui sont sociales, culturelles, politique. C'est à ce niveau-là que la question va quand même se régler à un moment.
Est-ce qu'on peut faire une transition écologique qui soit une transition verte et numérique?
J'interroge sincèrement notre capacité à permettre en fait une transition écologique par le numérique. Le numérique va permettre de faire certaines économies, c'est évident. Si je vais à une réunion, non pas en avion à New York, mais si j'y participe via Zoom, le gain écologique est colossale. En même temps, ces nouveaux usages numériques eux-mêmes sont colossaux et créent des nouveaux besoins qui se voient dans le monde réel. Internet, le mail aurait dû faire disparaître le facteur. Paradoxalement, j'ai jamais vu autant de livreurs dans les rues d'une ville comme Paris, parce que il y a Amazon, parce qu'il y a Uber, parce qu'il y a Deliveroo. Et donc, en fait, un monde dématérialisé, Juliette Rangeval, sera un monde toujours plus matérialiste. Et donc, je m'interroge, sans avoir la réponse, je n'ai pas de boule de cristal, sur la viabilité de ce grand récit qui nous promet que les avantages sans les inconvénients. Je pense que la vraie transition écologique sera beaucoup plus douloureuse et radicale que ça, et nous n'y sommes pas prêts.
Merci beaucoup, Guillaume Pitron. Je rappelle le titre de votre livre, L'enfer numérique, voyage au bout d'un like. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent.
Merci.
Une grande partie du trafic sur Internet, ce sont des vidéos de chatons, des discussions sur les réseaux sociaux. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu passer sur TikTok les vidéos pleines d'humour et de sarcasme de Kabilam, Cabane Lam de son vrai nom. C'est l'un des TikTokers les plus influents du monde. Il est suivi par près de 100 millions de personnes. Ce jeune Sénégalais vit en Italie depuis son enfance et il est devenu une star en un an et demi. Son portrait avec Cécile Debarge.
Son histoire est celle d'un petit miracle dont seuls les réseaux sociaux ont le secret. Il faut retourner un an et demi en arrière. Mars 2020, l'Italie découvre le Covid-19, Cabane Lamé, lui, a 20 ans. Ouvrier dans une usine de Chivasso dans la région turinoise, dans le nord du pays, il fait partie de ces milliers de travailleurs qui perdent leur emploi en pleine pandémie. Il découvre alors TikTok, commence à poster de courtes vidéos qui deviendront sa marque de fabrique. Pas un mot, mais quelques expressions faciales et quelques gestes simples, universels. Il répond aux trucs et astuces souvent absurdes qui circulent sur les réseaux sociaux de manière amusante, levant les yeux au ciel ou les bras en signe d'incompréhension. Paris réussi, ses vidéos font rire, elles deviennent virales. Kabilam, de son pseudo TikTok, est aujourd'hui suivi par plus de 113 millions de personnes. TikTok est devenu son occupation à temps plein, entre collaborations avec de grandes marques et boutiques en ligne d'objets et vêtements à son effigie. Ironie du sort, le plus célèbre et suivi des influenceurs italiens n'a toujours pas la citoyenneté italienne. En cause, les obstacles administratifs et la lourde bureaucratie qui attend les jeunes qui ont grandi en Italie, mais sont nés dans un autre pays lorsqu'ils souhaitent devenir citoyens italiens.
Let me know when you're ready. That's a good start. Vendredi, c'est la musique avec Vincent Teval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, on écoute un Suédois, José González.
Et oui, au rythme assez nonchalant d'un album solo tous les 6 ou 7 ans, le Suédois José González poursuit un chemin entamé en 2003 avec un premier album de folk acoustique un peu austère et prolongé avec son groupe Junip sur un versant plus électrique et psychédélique. Le voici de retour avec son 4e album Local Valley où l'auteur-compositeur s'amuse à relier ses nouvelles chansons à ses plus anciennes, d'abord en reprenant seul à la guitare un titre de son groupe Junip, et puis en envisageant certains textes comme des suites à ses anciens morceaux. Autre trait d'union, cette fois-ci avec son histoire personnelle, José González chante aujourd'hui en anglais, comme à son habitude, mais aussi en suédois ou encore en espagnol, soit ces trois langues usuelles, lui l'enfant de parents argentins, réfugié politique en Suède en 1976.
Y por agradecer lo extraño de simplemente ser un alma curiosa, singular, compleja en su calma y tempestad. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime. En el amanecer, cuando todo va cambiando de color y vemos aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime.
José González, El Invento, dans Accent d'Europe, à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.
ni por pertenecer a la gente del libro, pretendiendo entender los enigmas.